Vous êtes sur RTL. (musique) 12h30, 13h30.
Le journal inattendu de Michel Bernier.
Avec Ophélie Meunier sur RTL.
Et bonjour Michel Bernier.
Et bonjour.
Bienvenue dans le journal inattendu. Je suis ravie de vous recevoir sur RTL. Vous êtes chez vous.
Merci.
Nous sommes ensemble une heure en direct et c'est vous qui prenez les commandes de cette émission. Fin mars, on vous retrouve sur France 3 pour la saison 6 de La Stagiaire. Ce rôle de Constance Meyer qui vous sied à ravir depuis 2015. Une femme qui se prend en main pour changer de vie, qui mène de front son rôle d'épouse et de mère, même si ce n'est pas toujours facile et qui est surtout profondément humaine. Ça, c'est à la télévision. Et dans la vie.
Alors dans la vie c'est tout le contraire.
Non, vous êtes celle que tout le monde aime, qui nous fait rire sur nos petits tracas du quotidien et ça fait du bien. Vous assumez tout, y compris vos propres failles dont vous faites votre force. Et même si la vie n'est pas parfaite, que le démon de midi est passé par là, que vous avez fêté vos 50, 60 ans sans une ride, vous avez la conviction que le meilleur est toujours à venir. En bref, vive demain. Dans ce journal inattendu, Michel Bernier, on recevra l'invité que vous avez choisi, Jane Birkin. On découvrira vos goûts en musique et en cinéma et votre regard sur l'actualité. Mais d'abord, pour commencer l'émission, je vous passe la main et je vous donne une minute pour vous présenter. C'est l'autoportrait. Alors Michel Bernier, qui êtes-vous ?
Eh bien, Michel Bernier, c'est Michel. Et donc, j'ai fait un autoportrait avec les initiales de ce prénom. Donc, M comme maman, mamie, marrante, motivée, Mirabelle, parce que je suis de la Lorraine, mi-ange, mi-démon, de midi, Michel Jonas, mon lit, mes cousins, mes tantes, mon village, la mode. I comme impatiente, infiniment passionnée par mon métier, inquiète parfois, idéaliste, inconsolable, irascible avec les malpolis, incapable de prendre les mesures des meubles, intimité. C'est comme charmante, chaleureuse, chantante, célibataire, chauron, Charlie Hebdo, coquillette au beurre avec du gruyère qui file.
C'est bon ça.
Caféine, Charlotte, ma fille, Cabrel, comédie musicale, championne de rester sur un transat à la plage, champagne et Crozes Hermitage. H comme home sweet home, hors norme, hospitalière, harakiri, hyper groupie des gens que j'admire, Alimi, Gisèle, honnête, hydroalcoolique. E comme électrique, éclectique, empathique. Extraverti, extrêmement pas manuel, Enzo, mon fils, épicurienne, épistolaire, évite le sport, écoute les années 80 et pas une ride. Elle comme lumineuse, libre, liste des courses, Laurent Ruquier, les grosses têtes, liante, légèrement nostalgique, Liza Minnelli, locataire, lunaire, lion. Comme, et voilà, j'ai fait cet autoportrait comme je pouvais, la prochaine fois je le ferai avec Bernier et vacciné.
En gros, vous êtes
une super.
Que c'est bon de vous avoir.
Merci.
Tout de suite, les grands titres de l'actualité de ce samedi. Les premiers patients ont été transférés depuis des hôpitaux parisiens surchargés vers l'ouest de la France. La situation à Paris et ses alentours est extrêmement critique. Le point sur l'épidémie et les services de réanimation en alerte rouge dès le début de ce journal. Dans le même temps, les premières vaccinations dans les pharmacies ont commencé. Objectif, accélérer les injections. Se faire vacciner par son pharmacien, ça plaît aux patients qui trouvent ça pratique et intimiste. Reportage dans le nord de la France. L'actualité sportive, c'est l'élection du nouveau président de la Fédération française de football aujourd'hui, mais aussi du rugby avec la rencontre entre la France et l'Angleterre dans le tournoi des Six Nations. On fera bien sûr un point sur cette cérémonie des Césars étonnante hier soir. Revendications, humour grinçant, l'heure n'était pas à la joie pour la fête du cinéma français. La météo avec vous, Valérie Quintin. Bonjour Valérie.
Bonjour.
On est ravis de vous avoir aussi, même si vous n'avez pas de très bonnes nouvelles.
Oh, à côté, il y a du vent, il y a de la pluie, mais il y a aussi du soleil. On a la grosse dégradation qui nous intéresse, qui s'étend maintenant du Bordelais jusqu'à l'Alsace et va glisser aussi vers la Franche-Comté. C'est vraiment là que les pluies seront les plus intenses, avec des rafales de vent tout aussi fortes, de l'ordre de 60 à 70 km/h en pointe. À l'avant de tout cela, en allant vers le sud, là tout va bien. Du soleil entre les Alpes, la Méditerranée et les Pyrénées. Et puis à l'arrière, là où on a pris pas mal de courges ce matin, eh bien figurez-vous qu'on va avoir de belles éclaircies comme à Paris, mais ce sera le cas aussi en Bretagne, dans le nord, en Picardie, en Normandie ou encore dans les Pays de Loire. Les températures, c'est un petit peu frais dans le nord. 10 degrés à Lille au meilleur de l'après-midi, 12 à Paris, à Nantes et à Strasbourg, 14 à Lyon. Il fera 15 degrés à Toulouse et 19 degrés à Nice au soleil.
Merci Valérie, on vous retrouve à 18h. On a pris une belle leçon de météo, hein, Michel Bernier. À 13h,
j'adore,
c'est vous.
J'adore.
C'est vous qui faites la météo.
C'est vrai, c'est moi. Ah ouais, d'accord. Moi, je vais vous faire la météo d'hier parce que comme ça, je risque pas de me tromper.
On est bien parti.
Le journal inattendu sur RTL.
La France a franchi le seuil des 90 000 morts de la Covid et la situation est actuellement très critique en Île-de-France. À tout moment, on attend l'annonce peut-être d'un reconfinement. En attendant, pour désengorger les hôpitaux parisiens surchargés, les premiers transferts de patients vers d'autres régions ont commencé dès aujourd'hui. Aurélia Valarié, bonjour. Comment ça va se dérouler? Où les patients vont-ils atterrir?
Alors aujourd'hui, trois premiers patients sont transférés vers l'ouest de la France en hélicoptère. Ils devraient atterrir à Nantes, Angers et au Mans. Quatre personnes supplémentaires seront aussi évacuées de l'Île-de-France ce dimanche, ce qui en fait 7 au total dans le week-end. Et pour accélérer le rythme, le pays se prépare à des transferts plus massifs, en train cette fois, sûrement en milieu de semaine prochaine. Une technique qui a déjà été utilisée l'année dernière, mais qui met plus de temps à se mettre en place. Il faut compter entre 48 et 72 heures pour préparer chaque transfert et mobiliser environ 200 personnes. Selon nos informations, deux TGV sont actuellement en cours de préparation. Ils pourront accueillir environ une vingtaine de patients par rame, mais ce sera aux autorités in fine de décider si ces évacuations par train médicalisé seront nécessaires. Actuellement, en Île-de-France, les hôpitaux comptent plus de 1080 patients atteints du Covid dans leurs services de réanimation.
Merci pour toutes ces précisions, Aurélia Valarié. Je rappelle que nos voisins italiens, confrontés à une troisième vague de la pandémie, vont se reconfiner dès lundi. Un confinement strict avec fermeture des restaurants, des bars et des écoles. Dans cette ambiance de déjà-vu qui nous rappelle un scénario d'il y a un an, cette bonne nouvelle, un quatrième vaccin vient d'être autorisé en France, celui du laboratoire américain Johnson & Johnson. Les premières doses devraient arriver mi-avril. Les avantages de ce nouveau vaccin, une injection suffirait pour protéger du virus. Il est efficace sur les variants et se conserve à la température d'un réfrigérateur. En parlant de vaccin, pour accélérer la campagne, dès lundi, les pharmaciens vont pouvoir commencer à vacciner. Et d'ailleurs, certains le font dès ce matin dans des régions très touchées par l'épidémie. On retrouve dans le nord de la France notre correspondant Antoine Decarne. Antoine, vous êtes dans une pharmacie à Comines, dans les Hauts-de-France. Alors comment la pharmacie s'est-elle organisée pour réaliser ses premières injections?
Oui, et bien tout simplement de la même façon que lors des tests antigéniques réalisés en pharmacie. Tout se passe ici, au bout de l'office, dans une pièce isolée dédiée à la vaccination. Grégory Temprement, le gérant de la pharmacie, a reçu dès jeudi un seul flacon AstraZeneca. Il a vacciné ce matin une dizaine de personnes.
On avait incité les patients à se faire connaître à l'officine. Une fois qu'on a reçu les flacons, en fait, on a appelé les personnes une par une. On a pris rendez-vous par palier de quart d'heure, les patients de plus de 50 ans avec des critères de comorbidité.
Et les tout premiers habitants de Comines, comme Claude, un habitué, n'ont pas loupé le rendez-vous.
Ça va, vous n'avez rien senti?
Oui. Rien senti, tout va bien.
Pour lui qui habite à 500 mètres, c'était beaucoup plus simple d'être vacciné dans sa propre pharmacie.
Je suis entièrement rassuré. Mon médecin traitant ne m'a pas encore convoqué. Le pharmacien m'a convoqué en premier lieu, donc j'ai profité de l'occasion.
Et ils sont nombreux ici à être encore sur liste d'attente, mais leur vaccination dépendra du nombre de flacons reçus par la pharmacie, qui a pour l'instant peu de visibilité.
Alors, le reportage pour RTL d'Antoine Decarne dans une pharmacie à Comines. Les premiers Français à avoir bénéficié de ces vaccinations, on l'a donc entendu, hein, ont apprécié le côté intimiste, près de chez soi et pratique. Ça vous plairait de vous faire vacciner en pharmacie plutôt dans un vaccinodrome ou...
Je pense que de toute façon, tout ce qui peut faciliter la vaccination est la bienvenue, évidemment. La pharmacie, on se connaît. Notre pharmacien, c'est quelqu'un avec qui on a une certaine intimité. Donc je pense que, et puis pour les gens, donc qui sont souvent plus âgés, qui sont prioritaires. Prendre un rendez-vous sur Internet, c'est pas si simple. Tout le monde n'a pas non plus un ordinateur chez soi. Donc, effectivement, la pharmacie, c'est l'idéal. Et puis, voilà, continuer à se vacciner, c'est ça qui va nous sauver, on le sait. Et puis, à côté de ça, moi, je me pose des questions sur par rapport à l'engorgement des hôpitaux. Je n'entends jamais parler de l'armée. Je me dis, il y a des hôpitaux militaires, il y a des soignants, on pourrait aussi être aidé par l'armée à ce niveau-là. Et c'est dommage, j'entends jamais parler de ça. Mais peut-être que c'est parce que je ne suis pas assez au courant.
Des hôpitaux de fortune ont été installés en mars dernier.
Oui, mais c'était il y a longtemps. Aujourd'hui, on se dit, est-ce que pourquoi prendre du temps et perdre du temps pour soigner les gens, les transporter, les emmener dans d'autres régions, alors que peut-être que pas loin de chez soi, l'armée pourrait installer effectivement des hôpitaux éphémères, ouvrir même les hôpitaux militaires. ça fait partie de notre pays. On sait qu'on a une armée, elle est aussi à notre service. Et donc, moi, je trouve dommage qu'on fasse pas assez appel à eux. En plus, ce sont des gens qui ont l'habitude de la stratégie, de l'organisation. Donc voilà, je trouve ça dommage. Mais bon, ça ne regarde que moi, bien sûr.
Autre sujet, voilà une décision qui fait débat. Désormais, il n'est plus obligatoire d'indiquer l'origine du lait sur tous les aliments à base de produits laitiers. Jusqu'à présent, vous pouviez savoir si le lait que vous consommiez dans un rayon lait, par exemple, provenait de France ou d'un autre pays européen. Cette origine ne sera donc plus mentionnée, car le Conseil d'État a jugé que cela n'influait pas sur la qualité du produit. Cette annulation d'étiquetage était réclamée par l'industriel Lactalis, mais pour les petits producteurs, c'est un retour à l'opacité incompréhensible. Mathieu Faircoq est éleveur de vaches laitières en Seine-Maritime. Il est au micro de Frédéric Veil.
On se rend bien compte que les consommateurs ils cherchent à acheter local, à acheter des produits de proximité et des produits de qualité. Alors pourquoi un industriel, qu'est-ce qu'ils ont à cacher par rapport à leurs produits? Il y a du lait produit en France ou en Normandie, il y a tout ce qu'il faut pour produire des produits de qualité. Nous, on demande plein d'efforts. Il doit y avoir de la traçabilité, on doit présenter nos cahiers des charges avec comment on produit, avec quels aliments on produit sur l'exploitation. Les produits achetés, on doit garder des échantillons. Et puis d'un autre côté, on voit que des industriels ont des droits que je comprends pas par rapport aux consommateurs.
Un drame donc pour les producteurs qui risquent de retomber aussi dans une guerre des prix infernale. Dans un instant, on parle sport et cinéma, avec bien sûr votre réaction, Michel Bernier, à la cérémonie des Césars qui s'est déroulée hier soir. A tout de suite.
Le journal inattendu sur RTL.
Avec Michel Bernier et Ophélie Meunier.
La suite de l'actualité, c'est un week-end chargé en actualité sportive, justement. En foot d'abord, sans surprise, Noël Le Graët devrait, d'ici une minute à l'autre, être réélu à la tête de la Fédération française de football. On va suivre ça. Par ailleurs, les affiches de cette 29e journée de Ligue 1 après un nul arraché à Reims par Lyon hier soir, à suivre aujourd'hui à 13h, Angers-Saint-Etienne et à 17h, Marseille-Brest. Tous les résultats et les analyses avec Christian Olivier et ses chroniqueurs dans On refait le match à partir de 18h30. Et puis à suivre également aujourd'hui en rugby la très attendue rencontre entre le 15 de France et l'Angleterre à Twickenham. Un mois après son dernier match en tournoi des Six Nations et un gros cluster de la Covid-19 au sein de l'équipe, ce match qui s'annonce comme un grand défi sera l'occasion pour les Français d'ouvrir une nouvelle page. C'est sans aucun doute une cérémonie des Césars qui marquera. Mais pour les bonnes ou les mauvaises raisons, humour cynique, revendication à tout va. Le ton était rude lors d'une soirée vouée à célébrer la beauté et la qualité du cinéma français. On rappelle tout de même le sacre du film d'Albert Dupontel, Adieu les cons, qui décroche 7 récompenses. Mais on notera aussi ce moment irréel avec Corinne Maziero, qui a fini sur scène en tenue d'Ève. Bonjour Stéphane Boutsock, notre monsieur cinéma de RTL. On a suivi avec vous la cérémonie hier soir en direct et cette fameuse scène explosive à 23h25 de l'actrice du Capitaine Marlowe.
C'est une apparition d'abord étrange, dansante sur la scène de l'Olympia. Appelée pour remettre le César des meilleurs costumes, Corinne Maziero entre sur scène dans une peau d'âne.
J'étais dans un théâtre, demandé si j'avais pas des costumes. Je suis allé au théâtre de l'Odéon cet après-midi. Les copains qui occupent, ils m'ont dit « t'as qu'à prendre ça ». Il y a une femme qui est passée, soi-disant, pour négocier, voilà.
La référence au film de Jacques Demy est claire, tampon hygiénique sur les oreilles mis à part.
C'est trop trash, trop sanglant.
Mais on comprend de suite que le propos est ailleurs. L'instant devient militant, la comédienne ruisselle de faux sang et va vite exposer de vrais reproches au gouvernement à propos du sort des intermittents, des aides financières allouées par l'État ou de la fermeture des lieux de culture. Corinne Maziero ôte alors peu à peu son costume et va finir par se retrouver entièrement nue.
Alors j'ai un autre costume si tu veux, si celui-là ne te plaît pas. Dernier, c'est « Qui veut la peau ?» de Roger l'intermittent.
On découvre écrit le slogan « Nos cultures, nos futurs » sur son ventre et un autre destiné au Premier ministre dans le dos « Rends-nous l'art, Jean ».
Parce que maintenant, on est comme ça, tout nu. Voilà.
Michel Bernier, hier soir, c'était l'occasion de faire rêver, de donner envie aux Français de retourner dès que possible au cinéma. Est-ce que finalement, cette soirée n'aura pas eu un effet plutôt repoussoir?
Mais en même temps, je comprends. Hein, tout le monde est tellement sur les charbons ardents en ce moment. On n'a pas de la perspective. Le problème, c'est qu'on n'a pas de perspective. En fait, c'est un peu up and down en permanence. Peut-être au mois d'avril, peut-être au mois de mai, peut-être. Au bout d'un moment, je pense que tous les gens du spectacle, cinéma et spectacle vivant, voilà, sont fatigués, épuisés, ont l'impression d'être visés, plus que de raison, peut-être, j'en sais rien. En tout cas, bon, c'est vrai qu'hier soir, on avait peut-être envie un peu de rêver, d'être un peu dans quelque chose de plus léger, mais bon, je comprends qu'il ait fallu dire des choses. Après, moi, l'intervention de Corinne, ayant le père que j'ai, professeur Choron, sa provocation est toujours intéressante. Après, moi, ce qui me manque là-dedans, c'est que je trouve que ça me manque d'humour. Voilà, ça me manque de
mais ils ont essayé tout de même hier soir.
Oui, mais c'était un humour, bon, c'était pas toujours très, très, très bien vu. Enfin, je sais pas, j'étais pas fan des blagues. C'était un peu partout la jambe pour moi, mais bon, bref. Donc, je pense que ça mérite de vraiment travailler si on a envie de dire des choses. Et puis bon, après, moi, j'étais très heureuse pour le film de Dupontel que j'ai adoré. Et en plus, j'ai un de mes partenaires de la stagiaire, donc Nicolas Marié, qui a eu le César du meilleur second rôle. Et là, je sautais de joie sur mon lit et j'embrasse Nicolas parce qu'il est, c'est très mérité. Je me dis, voilà, il n'y a pas de fausses idées. Voilà, c'est un acteur formidable, pas assez reconnu. Et ça y est, c'est fait grâce à Albert. Et donc, c'est formidable.
Transition toute trouvée, la stagiaire, oui, qui revient le 23 mars sur France 3. Vous reprenez ce rôle de Constance Meyer qui vous va si bien. Alors, à quoi s'attendre pour cette saison 6?
Eh bien, cette petite Constance déménage avec son mari, joué par Philippe Lelièvre, dans une maison qui au départ ne lui convient pas spécialement, et puis en fait, ben, comme elle est gentille, ben, elle va s'y faire. Et puis ben, sa fille revient, il y a un voisin qui est joué par Charles Chagas-Bagnan, voilà, il y a quelques personnages qui arrivent. Tout le monde a des petits soucis personnels au début de cette saison, que ce soit Boris Delcourt, donc le juge Antoine Hamel, qui lui est un petit peu embêté parce que l'ex de sa nana est arrivé,
revient, donc,
voilà. Le procureur Kering joué par Nicolas Marié, lui reprend des leçons de russe et ça sera peut-être pas que du russe. Donc tout le monde est un peu
croustillant.
Comme ça. Voilà.
Bon, et puis il y a l'aspect tout à fait professionnel aussi. Alors, en exclusivité, extrait de l'épisode 1, un passionné des oiseaux a été tué, mais qui est le meurtrier? Vous échangez avec le juge d'instruction Boris Delcourt pour tenter d'y voir plus clair.
L'alibi de Vermeulen a été confirmé.
Très bien. Et côté professionnel, pour la victime, ça donne quoi?
Bah, avant de travailler en intérim, il était DRH dans une grosse boîte qui a été rachetée. On lui a demandé de dégraisser, il a refusé de le faire.
Bah, décidément, pas un homme de compromis.
Bah, il défendait des valeurs auxquelles il croyait, il était même apprécié pour ça. Le jour de sa mort, le conseiller en intérim l'a trouvé assez distrait. Il a même confié une mission pour le lendemain et il a refusé de le faire.
Il a donné une raison?
Dénouement de l'intrigue à partir du 23 mars sur France 3. Comment vous vivez depuis un an l'arrêt de la culture, sincèrement, vous, personnellement, intimement?
Ben avec beaucoup de détresse, beaucoup d'angoisse aussi, parce que c'est notre vie d'être sur scène et que pour tous les copains, les techniciens, moi j'ai une équipe avec qui je travaille depuis longtemps, donc je suis encore plus démoralisée parce que c'est mes potes, quoi, c'est devenu mes amis. Qu'on ne sait pas ce qui va nous arriver, dans quelle mesure, même le jour où ça va rouvrir, dans quelles conditions, comment, est-ce que même le public aura envie de revenir autant en masse, est-ce que...
Je le crois.
Oui, mais bon...
Moi, je suis côté public.
Oui, à force d'entendre tout le temps, attention, 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 bon, voilà, on ne sait pas comment tout ça va se passer. Mais c'est vrai que, bon, en même temps, on est dans un pays où, quand même, on a été beaucoup aidés. Les intermittents, les aides, il y en a eu. On ne peut pas dire qu'on a été lâchés. Je pense que c'est plus dur dans d'autres pays, que ce soit l'Italie, l'Espagne, le Portugal, même les États-Unis, où, franchement, je pense qu'il n'existe pas le droit des intermittents et tout ça. Mais aujourd'hui, je pense qu'il y a un surplus de stress, d'angoisse et d'envie de travailler. Parce que les aides, tant mieux, et heureusement qu'il y en a. Mais à un moment, on a envie de s'exprimer. Et puis, qu'est-ce qu'on peut faire, surtout? C'est-à-dire qu'à partir du moment où on est technicien, comédien, chanteur, danseur, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? C'est compliqué pour nous.
Bah oui, c'est votre vie, c'est votre travail.
C'est notre travail. Aussi, et puis bon, ouais. À 25 justement. Ans, on peut peut-être y changer, mais à 50, c'est plus compliqué.
La semaine dernière, Julien Clerc était l'invité du journal Inattendu. Il disait qu'il était grand temps que tous ceux qui vivaient secrets de la culture puissent à nouveau en revivre. L'une de vos chansons préférées du moment, Michel Bernier, c'est une chanson de Julien Clerc, oui. Mon refuge, de son dernier album Terrien.
Emmène-moi loin de cette ville que je connais par cœur.
Pourquoi ce titre ?
Ben, mon refuge, je oui. pense que ça veut tout dire. Et puis, ben, quand on va pas en rajeunissant, il y a des endroits, c'est sa famille, c'est ses amis ou sa maison, quelque part, quelqu'un avec qui on est bien, où tout d'un coup les choses s'apaisent, où on reprend espoir, on reprend du jus, de l'énergie, de l'envie, de l'amour. On a tous besoin de ça. Je pense qu'avec la pandémie, ce qui a manqué beaucoup, c'est de pouvoir se voir, s'embrasser, s'accompagner. Voilà. Et le refuge, je pense que c'est... Enfin, pour moi, cette chanson, elle veut dire ça. Emmène-moi dans ton refuge. Oui, voilà, là où on va être bien, là où ça va être calme.
Dans un instant, on continue à parler à spectacle. Et puis j'ai quelques petites archives pour vous, RTL, qui devraient vous ravir et aussi nos auditeurs. À tout de suite.
Le journal inattendu de Michel Bernier.
Avec Ophélie Meunier sur RTL. Le journal inattendu de Michel Bernier.
Avec Ophélie Meunier sur RTL.
L'information vient de tomber à l'instant. Noël Le Graët a bien été réélu président de la Fédération française de football. 79 ans, c'est un quatrième mandat. Michel Bernier, vous avez une belle relation avec les auditeurs d'RTL. Ils entendent votre voix et votre bonne humeur très régulièrement l'après-midi avec Laurent Ruquier dans Les Grosses Têtes. Mais Les Grosses Têtes, pour vous, c'est une histoire qui dure depuis bien plus longtemps. Vous étiez dès 1983 auprès de Philippe Bouvard dans cette émission culte Petit Souvenir.
Elle a 20, 22 ans, elle est tout cassée. Oh, c'est un peu la Joconde de mon petit théâtre, c'est Michel Bernier.
Bonjour.
Ne m'en veuillez pas d'avoir cédé à une nostalgie personnelle en vous proposant le même jour Pascal Légitimus et Michel Bernier, deux de mes plus talentueux anciens pensionnaires des années 80.
Qu'est-ce que vous pensez de l'amiral physiquement, Michel Bernier ? Sa coupe de cheveux, c'est intéressant, non ?
Oui, c'est une coupe de cheveux pour marin, c'est pas...
Ou au cédar.
Ça évite d'avoir les cheveux dans les yeux,
ouais,
quoi.
Moi, je préfère ma coupe de cheveux que votre moumoute acrylique. Hein.
C'était avec Olivier de Kersauzon, en invité. L'humour a changé, hein. On n'osait plus avant. On prenait moins de pincettes, on avait moins peur de se faire lyncher derrière sur les réseaux sociaux.
Entouré de réseaux sociaux, d'espèces de vox populi, ouais. Un peu juge de tout, qui se plaint qu'on n'a pas le droit de rien dire, mais quand on dit quelque chose, on n'a pas le droit de le dire non plus, donc c'est bizarre.
Non, faites attention à ce que vous dites, beaucoup
plus souvent. Oui, bien sûr. Ouais. Oui, oui. Bah, certaines choses, oui, je fais attention, parce que d'abord, je ne sais jamais comment c'est pris, comment... Voilà, à plus... Alors, le dire, ça va, parce qu'il y a le ton, il y a la façon de le dire. Après, l'écrire, alors là, c'est encore autre chose. Mais c'est vrai qu'on est toujours un peu sujet à se demander, voilà, est-ce qu'on va être compris dans son discours ? Maintenant, il ne faut pas s'empêcher d'être ce qu'on est. Hein. Il y a plein de gens qui se laissent aller à être ce qu'ils ont envie d'être. Et moi, je les admire, je trouve ça formidable. Mais c'est pour ça que le spectacle vivant est important, parce que c'est l'endroit où on peut dire ce qu'on veut. Personne ne vient vous dire la directive. Donc voilà, on est tranquille. On est avec son public et c'est lui qui décide. Voilà.
Avant le confinement, il y avait la scène avec votre spectacle Vive Demain qui tire à boulets rouges sur les CM1. Les C, c'était mieux avant.
Oui.
Extrait.
Non mais sérieusement, ça veut dire quoi, c'était mieux avant ? Le rimmel de nos premières booms. Vous vous souvenez ? La petite boîte noire avec la petite brosse. Il fallait cracher sur la petite brosse. Après, on touillait pour faire une pâte et on se peignait les cils avec. C'était d'un chic. Quand même mieux le mascara, non ? Manger, ça doit être une fête. Et la fête, c'est fait pour être ensemble. Et puis, à mon âge, si on commence à calculer le nombre de repas qu'il nous reste à faire avant de mourir, bah, autant se faire plaisir. Et faire plaisir à nos asticots, oui. Alors, parce que les vers qui vont bouffer les véganes, ils vont avoir des sacrées carences alimentaires.
On peut se dire, quand même, depuis un an, vous nous accordez de nous dire que c'était quand même un peu mieux avant ?
Alors, non.
Non, toujours pas.
Ce qui était... Non, parce que en fait, le titre de, enfin, de dire c'était mieux avant est un, quelque chose qui freine, donc qui ne fait pas avancer. C'était mieux avant. On se dit toujours c'était mieux avant, mais avant quoi? Avant évidemment, avant la pandémie, il y avait d'autres choses. C'est pas comme si on ne vivait sans rien, sans mort, sans maladie, sans un monde qui est troublé, sans les gens qui meurent de faim, tout ça. On peut pas imaginer qu'on peut pas dire qu'on était chez les bisounours à Disneyland et que la vie était magnifique. On sait aujourd'hui que voilà, on est en danger permanent dans ce monde, c'est comme ça, et ça veut dire que vivre demain pour moi, c'est voilà, trouver des nouvelles solutions, avancer, ne pas se lamenter, être dans de l'énergie, pas dans de avant.
Et vivement le retour sur scène.
Oui.
Dans un instant, le rappel des titres de l'actualité et votre invité du journal inattendu, Michel Bernier, c'est la grande Jane Birkin. À tout de suite sur RTL.
RTL, le journal inattendu.
Vous êtes bien sur RTL.
Le journal inattendu de Michel Bernier.
13h, les titres de l'actualité, Ophélie Meunier.
Ça y est, les pharmacies ont le droit de vacciner et ont commencé dès ce week-end. Officiellement, le début de la campagne de vaccination en pharmacie, c'est ce lundi. Mais comme les officines ont déjà reçu des doses, elles se sont lancées. Dans les départements à risque, des patients ont reçu leur première injection et sont ravis du protocole. La possibilité de le faire près de chez soi par son pharmacien que l'on connaît rend l'opération plus agréable. Malgré une campagne de vaccination qui avance donc, la situation est extrêmement critique et surveillée en Île-de-France. 3 premiers patients atteints de la Covid-19 en réanimation ont été transférés dès ce matin par hélicoptère vers des hôpitaux de l'Ouest. L'objectif va être dans les prochains jours de désengorger au maximum les établissements parisiens. Grosse actualité sportive ce week-end. Tout d'abord en rugby. Après un mois d'arrêt, une majorité de joueurs du 15 de France contaminés par la Covid-19. Reprise du tournoi Destination pour les Bleus. Bonjour Jean-Michel Rascol.
Bonjour.
Alors cet après-midi, c'est le crunch.
Oui, le crunch. On croque, hein, le crunch en anglais, c'est croquer. Il y a une rivalité entre les Anglais et les Français. Les Anglais ont inventé le rugby et les Français, parfois, l'ont mieux récité que ceux qui l'avaient inventé. Donc, à chaque fois que ces deux nations se rencontrent, eh bien, il y a une forme d'émulation qui fait qu'on assiste à deux grands matchs. Coup d'envoi à 17h45.
Et on va suivre ça, Jean-Michel, avec vous, bien sûr, en direct dans RTL Soir avec Vincent Parisot. Merci Jean-Michel Rascol. Côté foot, les affiches du jour, c'est Angers-Saint-Etienne qui démarre à l'instant et Marseille-Brest à 17h. Et puis sans surprise, Noël Le Graët, depuis 10 ans à la tête de la Fédération Française de Football, vient il y a quelques minutes d'être réélu à ce poste et remplit donc pour un 4e mandat. À 13h, la météo, c'est avec notre invité, Michel Bernier. Quel temps fera-t-il ce week-end?
Alors, heureusement que vous m'attendiez, hein, franchement, la semaine dernière, il faisait pas ce temps-là, pas loin. Enfin bref, alors, la météo cet après-midi et c'est parti pour les giboulées de Mars. Entre deux grains et une rafale de vent, il y aura des éclaircies sur un large quart nord-ouest. Les régions du sud, et bonjour, comment ça va? Entre les Pyrénées, ça va bien. Les Alpes, oh là là, disons, ça glisse. Et la Méditerranée, il y a des vagues. Vont profiter d'un soleil assez généreux, alors que la dégradation pluvieuse s'étendra, elle, des Landes, oh là là, à l'Alsace. Oui, bonjour. Et au Jura. Les températures seront comprises entre 8 degrés à Aurillac. Je vais bientôt partir à Aurillac, d'ailleurs. Attendez-moi, j'arrive bientôt. Et 18 degrés à Nice, où il fera 12 à Tours. À Tours, c'est aussi un peu de chez moi. Et à Paris.
Vive Paris. Vous faites quoi à 18h? C'est une nouvelle météo à faire à 18h et demain, si vous voulez. Je ne sais pas si Valérie Quintin va revenir. Cette émission est la vôtre, Michel Bernier. Aujourd'hui, vous avez choisi de recevoir une artiste que vous admirez beaucoup et vous n'êtes pas la seule. Bonjour, Jane Birkin.
Bonjour.
Bienvenue. Merci beaucoup de nous faire l'honneur d'être là. Il y a quelques semaines, vous avez reçu un prix d'honneur aux Victoires de la musique. Il y a 3 mois, sortez votre dernier album, Au Pardon, tu dormais. Un album dans lequel vous dévoilez une part plus intime de vous, produit par Étienne Dao, qui pose sa voix sur le titre éponyme Au Pardon, tu dormais.
Au Pardon, tu dormais.
Je ne dors plus, tu vois bien.
Le moment est parfait pour me dire si tu m'aimais, si tu m'aimais.
Alors sur cette douce musique, on aimerait savoir comment vous vous connaissez, pourquoi vous vous admirez, quelle est votre relation à vous deux, Michel et Jane.
Bonheur d'avoir été avec elle sur un film où elle était le soleil. C'était vraiment tellement gai.
Thelma, Louise et Chantal.
Oui, exactement. Avec Caroline Cellier
en 2010.
Ah oui, c'était une merveille de pouvoir faire un film de fille. Et elle était la mariée. C'était oui. Trop bien.
J'ai épousé Thierry Lhermitte, ce qui est pas mal quand même.
Ouais, c'est pas mal. Il y a pire.
Et puis Jane, mais c'est, ça fait partie de notre vie, quoi. Une femme incroyable. Moi, j'ai vu il y a pas très longtemps le documentaire sur Serge et j'ai trouvé que vous étiez merveilleuse de tendresse, de justesse par rapport à cette vie que vous avez eue incroyable. Et je sais pas, mais moi j'ai une sensation ayant eu moi-même pas un mari mais un papa aussi fou et délirant que a pu l'être Serge. Ma mère était une femme amoureuse comme vous l'avez été et j'ai l'impression à chaque fois que le génie des hommes est quelque chose de ça, c'est pas donné à n'importe qui. Voilà, n'importe quelle femme ne peut pas être avec un génie fou comme ça, comme pouvait l'être Serge ou mon père. Et c'est ça qui me touche beaucoup. Et je pense à vous souvent, quand je pense à mes parents et tout ça, je me dis quand même, malgré les difficultés, parce que c'est pas tout le temps, effectivement, un long fleuve tranquille, mais putain, quelle bonne femme, quoi.
Quelle bonne femme.
Franchement, c'est gentil. C'est gentil, ça. Oh, c'est un bonheur d'avoir connu des gens si hors de commun, tellement original, tellement... Enfin, on est dans le manque d'eux un peu, parce que Serge était tellement multifacette de toute façon. Les périodes de sa vie créative, il se redisait plus jamais. Il y avait une période peut-être rose qui était... ou bleu peut-être de je sais pas de l'époque de la javanaise, après ça il y avait l'époque un peu rose de Melody Nelson, après ça il est devenu carrément cubique peut-être avec Aux Armes etc et You're Under Arrest etc. Donc c'est quelqu'un qui voulait jamais regarder en arrière et qui finalement il a eu ce qu'il a voulu et ça c'est d'être admiré par la jeunesse de son époque. Donc, il voulait jamais rechanter la javanaise, en fait. C'est le Richomme qui a poussé à le faire et il était surpris. Il a dit, mais c'est pour les vieux que ça. Et pas du tout. Tout le monde avait leur briquet. Alors là, pas bête non plus. Il a mis dans le mieux de son spectacle. Mais voilà, cette originalité-là, d'avoir quelqu'un qui en plus, comme toutes les personnes un peu fascinantes, étaient à la fois quelqu'un qui voulait choquer, mais quelqu'un qui pleurait très facilement, qui était très romantique, et qui... Voilà, une sorte d'éternelle adolescente.
Dans votre c'est album, ça. Il y a... Alors, dans vos souvenirs, il y a Serge, mais dans votre album, il y a aussi les souvenirs de vos filles, avec ce très beau titre, « Jeux interdits ».
Elle se fabriquait des histoires
Vous disiez à l'instant, Michel, qu'est-ce qu'elle est jolie, cette mélodie.
Oui, parce que moi, c'est ça que j'aime, en fait, dans les œuvres, en règle générale, c'est de mélanger l'émotion et la légèreté et quelque chose comme une plume qui s'envole et qui revient. Et voilà, moi, c'est ce que j'aime chez Jane.
Je trouve que chez vous deux, il y a la mélancolie, parfois, puis il y a aussi la légèreté, la joie. J'aimerais savoir, au final... Qu'est-ce qui restera le plus ? La mélancolie ou la joie ?
Je pense qu'on est toujours très reconnaissante aux comiques, aux comédiennes. Mmh. Parce que dans les moments les plus noirs, c'est eux qui finalement... on mettait Coluche sans arrêt après Serge, avec Charlotte dans la voiture. On veut voir les films de Billy Wilder, on veut voir les producteurs de Mel Brooks. Voilà, si on va dans une île déserte, on pense, nous, on va emmener tous les films de Bergman. Peut-être on va emmener une comédie, justement.
Justement.
Et d'être terriblement drôle et terriblement triste, c'est notre sort. Donc c'est... Moi, j'ai une grande admiration de les gens qui peuvent nous faire rire.
Michel, vous êtes d'accord?
Bien sûr. L'humour, c'est la chose. L'humour, c'est la chose qui est la plus importante. D'ailleurs, c'est tout ce que tout le monde cherche, en fait. Hein. C'est trouver un endroit où on puisse tout d'un coup partager. D'abord, je pense que l'humour, c'est ce qui te partage le mieux, même dans une histoire d'amour. Moi, j'ai toujours l'impression que ce qui est le plus important, c'est de rire avec la personne qu'on aime. Si on ne rit pas, bien sûr. D'abord, le rire, c'est instantané. C'est comme ça, ça ne se réfléchit pas. Donc, c'est une vraie complicité. Et moi, c'est ça que j'aime. Et je pense que ça protège de beaucoup de choses, l'humour. Ouais.
On reste avec nos deux invités exceptionnels, Jane Birkin et Michel Bernier. À tout de suite sur RTL.
RTL, le journal inattendu.
Le journal inattendu sur RTL, avec Michel Bernier et Ophélie Meunier.
Pourvu qu'on m'aime, c'est mon problème.
Pourvu qu'on m'aime, interprété par Juliette Morin, qui concourait il y a quelques semaines pour être candidate à l'Eurovision pour la France. C'est l'une des chansons qui vous a marqué ces dernières semaines, Michel Bernier, malgré un succès incontestable, une carrière immense. Que vous partagez, hein, toutes les deux. Quelque chose, est-ce que c'est quelque chose qui ne vous quitte pas, ça ? La crainte de ne plus être aimé ou de ne pas être aimé ?
Ben, je pense que c'est le plus grand désert, en fait, celui-là. C'est voilà, si tout d'un coup, il n'y a plus le contact, il n'y a plus rien, je pense que c'est là que la dépression arrive, obligatoirement. Hein.
Vous en parlez aussi sur votre dernier album de ça, Jane Birkin. La crainte de finalement perdre l'amour de ses proches ou du public aussi.
Oh, mais j'ai parlé surtout de les affaires personnelles.
Plutôt des affaires personnelles.
Oui, et ça coïncidait très bien avec les... Enfin, il semblait que corresponde beaucoup avec Étienne Dao, avec lequel j'ai co-écrit et qui a fait la musique avec Jean-Louis Pierrot. Donc... C'était gai d'être avec un compagnon comme ça qui vous pousse à la débauche, qui vous ramène vers les histoires de jalousie, mais de passion aussi, passion drôle aussi avec les enfants, le misère d'avoir fait souffrir quelqu'un, la perte des personnes qu'on a adorées, tout ça mélangé, c'est avec cette compagnon que j'ai été pendant le dernier un an pour travailler. Et c'est vrai que si on était en misère en mai dernier, c'était finalement qu'on se rendait compte que de pas voir les visages souriants dans la rue, de ne pas pouvoir être avec les êtres chers. Et pourtant, moi, j'étais dans un appartement coquet. Hein. Oui. Mais c'était pas ça, finalement. C'était vraiment les gens. Et dans les périodes compliquées, j'ai toujours eu cette chance d'avoir eu les personnes qui venaient volontiers vers moi. C'est un grand réconfort. C'est une chance quand on est comédienne, comme Michel, quand on sort dans la rue et les gens vous sourient tout de suite.
Mais c'est
ça change ta journée.
Ça change ta journée.
Michel Bernier, votre public vous aime parce que vous vous assumez aussi. Pour votre reportage inattendu, vous avez souhaité savoir comment sont choisies les femmes qui représentent Marianne. Bonjour Marie-Bénédicte Allaire, reporter au service politique d'RTL. Merci d'être avec nous en studio en direct. Il semblerait que le critère principal reste, selon Michel Bernier, la beauté. Et pourquoi ce ne serait pas plutôt les compétences ? Alors, est-ce que ce n'est qu'une impression, Marie-Bénédicte ?
Pas tout à fait, et vous pensez sans doute, Michel, aux Mariannes célèbres, mais savez-vous d'où vient ce symbole ? Eh bien, en 1792, les révolutionnaires veulent remplacer la fleur de lys du roi. Le journaliste Pierre Bonte, incollable sur le sujet, nous raconte sur quoi se porte leur choix.
Une femme tenant un bonnet phrygien considéré comme le bonnet de la liberté parce qu'il était porté autrefois dans la Rome antique par les esclaves affranchis. Et voilà comment l'allégorie de la liberté est devenue l'emblème de la France républicaine.
Alors, au fil des ans, Marianne évolue, guerrière ou bourgeoise, seins nus ou pudique, selon les artistes qui la représentent, car on ne le sait pas toujours, il n'y a jamais eu de modèle officiel. D'ailleurs, les mairies ne sont pas tenues d'avoir leur buste. La vogue des Marianne célèbres, c'est le sculpteur Aslan qui la lance en 1970 avec Brigitte Bardot et quelques années après, Mireille Mathieu.
Je ne vois pas tellement d'autres Françaises aussi populaires. Et je pense, quand je pense Marianne, je pense à Marianne vue par les étrangers. Je ne pense pas seulement à la Marianne des Français, mais à la Marianne représentant la France.
Mais quand en 1999, l'Association des maires de France lance un concours pour choisir la Marianne de l'an 2000, eh bien les maires ne se bousculent pas pour acheter le buste de Laetitia Casta. L'époque a changé, l'idée que Marianne doit être choisie pour son physique a fait long feu. La représenter sous les traits d'une personnalité connue, c'est d'ailleurs une erreur, selon l'ancien président du Conseil constitutionnel, Jean-Louis Debré.
Marianne ne s'identifie à aucune femme. Lorsqu'on a voulu faire la Marianne Bardot, la Laetitia Casta et compagnie, on assimilait une femme à Marianne. Et ça, c'est contraire à la tradition républicaine de Marianne.
Il est partagé d'ailleurs par le collectionneur Pierre Bonte. Il s'adresse à vous, Michel. Écoutez.
Je crois que, Michel Bernier, vous auriez fait une très très belle Marianne, mais je continue à croire que Marianne doit être quelque chose d'impersonnel. Je ne sais pas, j'aimerais bien savoir ce que vous en pensez.
Bah, c'est-à-dire que moi, dans l'idée, en fait, avec Marie-Pascale Ostérit, qui co-écrit tous les, enfin, avec lesquels j'écris tous les spectacles, sur le dernier, on a beaucoup, on a tout un passage sur les femmes. Et je me disais, c'est vrai que aujourd'hui, l'exemple, hélas, il est beaucoup, de télé-réalité, de beauté, tout ça. On sent que quand même, il y a un gros problème avec ça et que la place des femmes n'est pas toujours, ce qu'elle devrait être. C'est très bien d'être belle et célèbre et tout. J'ai aucun problème avec ça. Ce que je trouve, c'est que c'est dommage qu'il n'y ait pas des exemples sur des femmes scientifiques, des femmes chercheurs, des femmes chefs d'entreprise, des femmes, qu'on met à l'honneur dans une mairie, si le maire veut bien, des femmes qui sont différentes. D'ailleurs, il pourrait y avoir 5 Marianne, 10 Marianne, mais qui représenteraient aujourd'hui pour les petites filles, pour les jeunes femmes, quand elles rentrent dans une mairie, quelqu'un qu'elles pourraient imaginer être demain, et pas simplement une beauté. Et Dieu sait si... on était ravis d'avoir Brigitte Bardot, Mireille Mathieu et Laetitia Casta. Mais ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, vu tout ce qu'on entend, les MeToo, les machins, etc., on voit bien que la place des fans a besoin d'être un petit peu recadrée et aussi dans des choses qui la différencient d'uniquement un vecteur de beauté, de désir. C'est juste ça.
Qui on est? Qu'est-ce qu'on accomplit? Quelle trace on laisse sur ceux qui nous entourent? Vous l'abordez aussi, Jane Birkin, dans le titre « Je voulais être une telle perfection pour toi ».
Fini la vie de bonne sœur, me voilà défroquée. C'était bien quand même tous les trois ensemble, il te faisait rire. Je voulais être une telle perfection pour toi.
Je voulais être une telle perfection pour toi. Finalement, vous avez été la femme que vous souhaitiez être, libre et insoumise, Jane Birkin.
Oh non, j'étais pas libre, j'étais soumise des personnes que j'admirais tellement à partir de 17 ans. Mon premier mari était John Barry, que j'admirais tellement devant les symphoniques, en faisant les musiques de James Bond, Out of Africa plus tard. Un personnage tellement doué que j'étais sidérée qu'il pourrait tomber pour une personne comme moi. Et de l'avoir perdu parce qu'il est parti en Amérique, il me laissait donc avec ma fille Kate, et je pensais que j'étais une ruine de femme quand j'ai arrivé en France à 20 ans et de faire ce test avec Serge Gainsbourg que j'ai gagné. Je sais probablement parce que je pleurais beaucoup. Ça le dégoûtait d'ailleurs que je mélangeais ma vie personnelle avec... Pensez, ah, ça c'est typique des actrices. En tout cas, à cause de mes larmes, j'ai peut-être gagné cette rôle-là. Et je voulais l'épater. C'est plus ça. Je voulais l'épater avec Jacques Doyon qui était très intellectuel et un cinéaste extraordinaire avec ses dialogues, ses films tourmentés. Je voulais être à le niveau. La même chose avec Chéreau. Je voulais qu'il soit fier de moi parce qu'il m'a choisi dans un rôle vraiment inattendu à la comtesse de Marivaux avec Cher Piccoli. Et oui, les personnes qui a cru en moi, j'ai jamais voulu les décevoir parce que c'était pas gagné d'avance. J'étais pas grand chose. Donc c'est vrai que j'étais de toutes les audaces à ce moment-là et de toutes les courage d'une certaine manière parce que j'étais avec les personnes qui admiraient le courage, quitte à casser la jambe, mais au moins que tu sautes. Et c'est vrai que je sautais bien.
On le prendra comme on veut. Merci Jane Birkin. Je renvoie à votre dernier album Au pardon tu dormais, qui je trouve est super intimiste et qui parle de vous très honnêtement comme rarement vous l'avez fait, et ça fait extrêmement plaisir. Merci Marie-Bénédicte Allaire pour votre reportage inattendu, très éclairant.
Merci.
Vous écoutez le journal inattendu de Michel Bernier, restez avec nous, on se retrouve dans un très court instant sur RTL.
Merci de m'avoir invité.
Le journal inattendu de Michel Bernier
avec Ophélie Meunier sur RTL.
Le journal inattendu de Michel Bernier
avec Ophélie Meunier sur RTL.
Il est 13h26 et Michel Bernier danse dans le studio du journal inattendu. C'est un de vos films préférés, Chantons sous la pluie. Ça met toujours en joie.
C'est feel good, ça fait du bien. Et ça raconte une vraie histoire, hein, vraiment, le cinéma quand il est devenu parlant. Et c'est joyeux, c'est doux, c'est... Voilà. Même mes petits-enfants sont accros maintenant, ça y est.
Vous parliez de votre papa, Georges Bernier, le professeur Choron, dans votre autoportrait. On en parlait aussi quand on parlait des Césars. Qu'est-ce qu'il aurait dit, le professeur Choron, sur l'actualité, les gilets jaunes, la réforme des retraites, ce climat de tension? Comment il aurait réagi?
Je pense qu'il se serait énervé encore plus que d'habitude. Mais pour tout, papa était un énervé permanent. Voilà, il aurait fait des fiches bricolage pour les gilets jaunes sur les ronds-points. Il aurait certainement chanté des chansons pour les intermittents en disant qu'on aille tous un peu se faire foutre. Je crois qu'il aurait été un peu ça son hymne, mais c'était un grand provocateur, donc je pense qu'il aurait gardé son rôle, c'est sûr.
Alors ça, c'était le papa, le professeur Choron. Chaque semaine dans le journal inattendu, je propose à mon invité de laisser un message à une personne de son choix. Si vous avez une demande à faire passer ou si vous souhaitez parler à quelqu'un que vous ne connaissez pas, eh bien c'est le moment. Alors Michel Bernier, à qui avez-vous choisi de laisser un message?
Alors à deux personnes. J'espère qu'ils ont le même répondeur.
On va voir.
Donc Nakache et Toledano, les excellentissimes réalisateurs intouchables pour mémoire. Et ils ont fait une série merveilleuse qui s'appelle En thérapie, que j'ai dévorée comme une folle. Et donc voilà, c'était juste pour vous dire, cher Nakache et Toledano, voilà, si jamais vous faites un En thérapie 2 et que vous ne savez pas qui mettre sur le canapé, même 5 minutes, je suis preneuse parce que j'adore les canapés.
Bon, je suis sûre que le message est sur le même répondeur. Merci beaucoup Michel Bernier. Rendez-vous le 23 mars sur France 3 pour la saison 6 de La Stagiaire, régulièrement aux grosses têtes avec votre ami Laurent Ruquier. Cette émission sera bien sûr disponible en replay dès cet après-midi sur notre appli RTL. Tout de suite, Jean-Alphonse Richard présente Confidentiel, numéro consacré à Meghan Markle. Bonne semaine à tous. Mon invité la semaine prochaine, Vianney. Rendez-vous à 12h30 samedi prochain.
Le journal inattendu.
Avec Ophélie Meunier sur RTL.
RTL Matin, les pépites d'Anthony Martin.
Tous les jours à 7h25 dans RTL Matin avec Yves Calvi, je vous propose une pépite musicale sortie de ma discothèque. Alain Souchon chante Dalida, Vanessa Paradis France Gall, Johnny Alain Bachung. Chaque matin, une rareté, un pas de côté, parfois une nouveauté. On se retrouve chaque matin à 7h25 pour notre balade au cœur du patrimoine musical et bien sûr à tout moment en replay sur la nouvelle appli RTL.